Bonsoir, nous rencontrons Monsieur Fedotenko, qui présente le spectacle Sonata Hamlet à l'Espace des Anges. Merci de nous accorder un peu de votre temps.
Avec plaisir.
Vous avez commencé la danse très jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé Qu'est-ce qui a motivé votre choix?
Qu'est-ce qui m'a motivé de danser? C'est pas les mêmes mots. Faire la danse et danser. Quelle est votre question? Faire la danse ou danser?
Danser.
D'accord. Oui, c'est à l'âge de 8 ans que j'ai commencé à danser à Moscou, dans mon pays. Il n'y avait que l'école de danse classique. Moi, je ne voulais pas du tout faire ça. J'ai trouvé ça très ennuyant. Retracer les histoires écrites déjà par certaines, apprendre les pas à pas. Voilà. Donc si c'est pas la danse classique, quel type de danse? Moi je me suis plongé dans la danse contemporaine, mais à l'époque on l'appelait pas comme ça. Pas parce que... En fait c'est plutôt tous les modes d'expression corporelle qui m'intéressaient. Y compris le clown, y compris beaucoup d'improvisation. Danse classique aussi, comme une bonne discipline du corps. Puis la gymnastique, acrobatie, tous les arts du cirque. Peut-être ça reflète un peu dans le travail. Voilà. Et puis parallèlement, des arts martiaux. Pendant 12 ans, allant jusqu'à un très très haut niveau, première dan. Tout en dansant, suivant le chemin de la danse. Voilà. Et puis, je ne sais plus comment, à quel moment c'est passé dans le côté professionnel. Parce qu'aussi parallèlement, je faisais mes études dans l'école d'architecture. Ce qui aussi, j'espère, reflète un peu dans le travail. Cet amour pour les constructions, le travail avec un espace d'une manière très dynamique, très graphique. Voilà, à un moment donné, tout ça, ça a devenu mon chemin de danseur.
Nous avons pu voir que vous êtes originaire de Moscou. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en France?
C'est vrai que dans toute l'enfance, je n'ai pas imaginé du tout. J'apprenais anglais, j'apprenais allemand, qui est d'ailleurs aussi présent dans la pièce. Voilà, à aucun moment je pensais que ma vie va m'amener en France. C'est plutôt rencontre avec les grands chorégraphes français qui sont passés par le Centre culturel français. Maintenant, c'est l'Institut français. Voilà, dans mon pays, grâce à leur action, j'ai pu rencontrer peut-être trentaine, quarantaine des chorégraphes de différents styles d'écriture. Et on ne peut pas dire que c'est du hasard, parce qu'il n'y a pas du hasard. À un moment donné, il y avait un passage d'une grande école danse contemporaine CNDC à Angers. Ils sont venus à Moscou et moi j'avais 23 ans à l'époque. Donc ça m'a donné envie. En voyant ces jeunes-là, j'étais un peu plus âgé que certains parmi eux, de postuler, de présenter ma candidature pour l'audition. Voilà. Donc j'étais retenu et après ça, voilà, c'est comme ça que je suis venu en France en 96. Donc ça fait déjà 17 ans en arrière. J'ai répondu.
Oui, merci beaucoup. Et pourquoi avoir choisi la réadaptation de... Alors, je sais pas comment ça se dit, Einar Müller.
Einar Müller, ouais.
Et c'est ça. Et plutôt que la pièce originale de Shakespeare.
Disons qu'il y a, au départ, on a parlé tout à l'heure de mon début, mon enfance. Ben, au départ, il y avait d'abord le rêve de danser Hamlet, à peu près à l'âge de 12 ans. Quelque part là, j'ai eu... C'est là que j'ai lu première fois Hamlet de Shakespeare à l'âge de 12 ans. C'est mon grand-père qui m'a initié. Donc je me suis dit, oh, et si Hamlet et il danse ? Parce qu'on voit beaucoup les représentations théâtrales, et cinématographiques. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas vous, mais moi, jamais vu Hamlet danser. Donc c'était même pas un rêve, mais et si ? Je me dis, et si je danse Hamlet ? Voilà, c'était comme une hypothèse. Puis les années passées, ça a grandissé au moins. Bon, j'ai aussi t'as d'autres rêves, comme aussi peut-être danser Raskolnikov, de Dostoïevski. J'ai quelques des idées comme ça devant moi. Mais pour un russe, soulever un œuvre d'un russe, c'est une encore peut-être responsabilité plus grande que Shakespeare, même si ça paraît un poteau énorme dans la littérature mondiale. Et puis plus tard, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup des années plus tard, en 2010, j'ai découvert Hamlet Machine de N.R. Müller en travaillant avec un autre chorégraphe français, un grand chorégraphe français, François Verret, que j'ai découvert par hasard parce qu'on a abordé tas de textes pour la création, qu'on a joué à Avignon aussi en 2011. Et cette découverte m'a bouleversé. Ces douzaines de pages assez condensées, très à fleur de peau, comme on dit. Voilà, à la suite de ça, j'ai fait un premier lien avec ce rêve d'enfant, de danser Hamlet. Sauf que dans l'œuvre de Müller, il y avait une espèce de mise à jour qu'il faisait lui en vivant dans l'Allemagne divisée, en pleine chute du mur de Berlin. Et pratiquement à la suite, peut-être un mois plus tard, j'ai fait un saut vers l'avant, vers aujourd'hui, parce que ça correspondait pile poil à ce qui s'est passé actuellement, cette époque-là, en Russie actuelle, sous, comment on peut dire, empire, hégémonie de Poutine. Et du coup, j'ai fait très vite une parallèle entre royaume de Danemark, chute du mur de Berlin, effondrement de bloc soviétique, où au milieu de tout ça, il y avait un homme. Cet homme-là, pour moi, c'est Hamlet, qui tout à coup serait par être ou pas être, sans avoir une importance de vivre en Allemagne de l'Est ou en Allemagne de l'Ouest. Peu importe, partout, l'homme, ça coûte rien. On s'en sert de lui pour obtenir certains buts, comme ce qui se passe actuellement en Russie, où il y a une espèce de démocratie fausse, et que encore la vie humaine, ça coûte rien du tout. Et mon Hamlet, c'est un condensé de ces trois points historiques.
En ce qui concerne la forme de votre pièce, pourquoi votre choix s'est plutôt tourné vers de la musique rock que vers de la musique classique ?
Parce que je voulais créer un manifeste dansé. Je voulais que, à la différence de Shakespeare ou à la différence de répression sous Poutine, ici, dans cette histoire-là, j'aimerais bien qu'Hamlet scande un hymne à l'homme, avec grand H. Et qu'il n'y a pas un meilleur moyen que trouver la musique du rock. Parce que, bon, ça pouvait être du rap, bien évidemment. Mais moi, je cherchais plutôt la musique et pas ajouter d'autres parties textuelles, parce que le texte est déjà assez chargé. Je cherche plutôt presque à enlever les choses que d'ajouter. Et donc, pour moi, il n'y a pas de meilleur support, un apport que la musique du rock, avec sa tonacité, avec son côté révolte, parce que rock, ça vient de là, à mon sens, avec son côté tenace, perpétuel, voilà, quelque chose qui mute, mais qui ne cesse pas, dès qu'il y a une pensée vivante, dès qu'il y a une action, pour moi, ça ne peut pas s'épuiser, cette chose-là, elle ne peut pas mourir. Pour moi, le rock, c'est Freddie Mercury à la fin, avec la main bien haute, c'est un peu ça. C'est mon Hamlet, c'est ça, c'est Freddie Mercury.
Et quelle est la complexité de mêler la danse avec le théâtre ?
Énorme. Énorme dans un sens que il n'y a pas de chemin classique. Qu'est-ce qui précède ? Est-ce que précède le mouvement ou c'est le texte ? Ou est-ce que c'est le texte qui anime le corps ? Ou est-ce que c'est le corps qui fait un appel à tous les moyens corporels, y compris jusqu'à l'écorce vocale ? Pour moi, il n'y a pas de chemin défini, et que la pièce était composée de telle manière qu'au départ j'ai choisi beaucoup de textes, puis finalement j'ai commencé à improviser avec le corps. Deux fois c'est le corps qui faisait appel, parce que j'apprenais, comme un peu comme les comédiens, j'apprenais le texte par cœur pour qu'il puisse d'être tout à coup chopé comme ça dès que j'ai besoin un support. Pour être le plus bref, vous voyez les scènes des barricades où on n'a pas une importance ce qui est dit parce que c'est en russe ou peut-être en arabe. Ça pouvait se passer en Tunisie, ça pouvait se passer en Égypte, n'importe où. Mais c'est un appui pour moi. S'il n'y a pas de, voix, s'il n'y a pas de texte ici, même si vous ne comprenez pas ce qui est dit, il n'y a pas de. Le geste pour moi, il est faux. Il peut être dans d'autres endroits légitimes, quand il y a la danse à la fin, où il n'y a plus de paroles, où il n'y a plus de place pour ça. Tout est resserré dans le corps et c'est le corps qui jaillit. Tandis que dans les parties d'avant, c'est important qu'il y ait ce support. Et du coup, c'est un drôle tissage entre qui et quoi faire appel à quoi. Texte, le corps ou le corps, le texte.
Quel est l'intérêt du masque dans le spectacle ?
Le masque, dès le départ, je voulais que ça soit, que le visage soit pas parlant. Je voulais je voulais donner à ce visage un visage de monsieur tout le monde. C'est-à-dire que ça pouvait être une femme, ça peut être un homme. C'est un animus, anonymus. C'est des gens qu'on voit il y a 4-5 ans en banlieue parisien qui embrasent les banlieues. Ils n'ont pas envie de donner leur visage, ils ont envie de montrer leur désaccord profond avec le monde qui l'entoure. Et donc c'est une sorte de, du côté voilà, anonyme, un empêchement pour que le visage ne parle pas. Il va parler plus tard dans la pièce, quand je l'enlève le masque. Et puis aussi, comment dire, c'est peut-être un peu compliqué, c'est une chose tellement personnelle de se réveiller le matin, regarder à la glace et d'être honnête avec soi-même. C'est une chose que. C'est un exercice. C'est un exercice théâtral où j'ai besoin d'effacer les traits, de mettre deuxième peau, de vivre avec cette peau et presque aller au-delà de ça, c'est-à-dire que faire tant de travail à l'intérieur que le vrai visage puisse apparaître, puisse pénétrer à travers le masque. Mais ça, c'est peut-être ça, pour vous, ça ne vous dit rien, mais pour moi, c'est un support encore, un support supplémentaire dans la pièce. Comment, de l'intérieur, faire passer l'énergie à travers le masque, au-delà du masque.
Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Et c'était Étincelle, l'émission des jeunes pour les jeunes, avec Céline et Laurine sur 48FM 94.1.
Merci, Céline et
Laurine.
Laurine.